VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bienvenue dans cette édition du 16 janvier 2017. Au sommaire ce soir...
Le Burundi veut entamer la procédure de retrait de ses troupes déployées en Somalie.
Dans le Nord Kivu en RDC, un mort et plusieurs blessés dans une attaque contre la prison de Beni.
Nigeria, une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram fait au moins 3 morts à Maïdougouri.
Meilleure perspective pour l'économie américaine sous l'administration Trump, prédit le FMI.
Plein feu sur la CAN 2017 au Gabon, la Côte d'Ivoire n'a pas pu remporter sa première victoire dans le championnat. Match nul 0-0 face au Togo.
Mais avant tout, le journal.
On commence par la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se poursuit au Gabon. Ce lundi, Nicolas Pineau, la Côte d'Ivoire faisait face au Togo.
La Côte d'Ivoire qui piétine à Oyem, le champion en titre et les éperviers du Togo se séparent sur un score nul et vierge, 0-0. Premier match sans but de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'opposition a été serrée, les éléphants ne sont pas parvenus à trouver la faille face à Adebayor et à ses coéquipiers. Et puis le rendez-vous, le choc dans le groupe C à 19h temps universel, la République démocratique du Congo face au Maroc.
Merci Nicolas Pineau. Tout ce qu'il faut savoir ce lundi sur la compétition dans le journal de la CAN, ce sera dans quelques minutes.
Au Nigeria, au moins 3 personnes ont été tuées et 15 blessées dans un attentat suicide perpétré par une jeune fille dans une mosquée de l'université de Maïdougouri. Eric Manirakiza.
Selon la police, l'attentat s'est produit pendant la prière du matin dans une mosquée de l'université de Maïdougouri. Il a été perpétré par une jeune fille. Il n'y a pas eu de revendication, mais l'attaque porte la marque de Boko Haram. Pendant plus de 2 ans, les écoles publiques, ciblées à de nombreuses reprises, sont restées fermées dans l'état du Borno, berceau de Boko Haram. À Maïdougouri, la capitale, elles ont rouvert fin 2016. En revanche, l'université n'a jamais cessé ses activités et les étudiants vivent ensemble sur le campus, sans distinction de religion. L'autorité rectorale a reporté des examens qui étaient prévus aujourd'hui à une date ultérieure, mais d'autres examens sont maintenus pour demain, comme prévu.
Au Mali, 4 prisonniers jugés dangereux ont tenté de s'évader de la maison centrale d'arrêt de Bamako, mais grâce à la vigilance des gardes, les 4 fugitifs ont échoué dans leur effort. Précision Kassim Traoré.
Des coups de feu ont retenti dans le centre de Bamako. Aux environs de 3h du matin, 4 prisonniers dangereux ont tenté de s'évader de la maison centrale d'arrêt de Bamako. N'eût été la vigilance des gardes pénitentiaires dont les tirs de sommation ont vite dissuadé les détenus. Ils avaient réussi à s'exfiltrer de leur cellule de haute sécurité. Les 4 fugitifs ont vite été appréhendés par les gardes pénitentiaires. Aucune victime n'est à déplorer. Toutefois, il ressort des premiers témoignages que cette tentative d'évasion était en planification depuis plusieurs mois. Des complices parmi les détenus sont présentement entendus par la brigade territoriale de Bamako Croix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC également, la prison centrale de Beni dans le Nord Kivu a été attaquée, faisant au moins 1 mort et plusieurs blessés. Arzuma Compaoré.
Pour le porte-parole de l'opération Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu, le capitaine Mac Azukai, l'objectif était l'évasion des combattants Mai Mai et des rebelles ADF.
Hier, ils ont tenté encore une fois d'ouvrir la prison pour libérer les combattants ADF et aussi des Mai Mai parce que les prisonniers combattants de l'ADF dans le procès qui déroule à la tribu de Umar Sabini sont tous là-bas. Il y a aussi des Maïmaï et autres délinquants.
Comme l'an dernier, l'assaut contre la prison de Beni s'est soldé par un échec, mais a encore fait des victimes.
L'armée s'est intervenue et a réussi à neutraliser un des assaillants. D'autres blessés se sont enfuis. Mais dans le rang, nous avons un militaire qui s'est blessé.
Joint par VOA Afrique, le rapporteur de la dynamique des parties issues des accords de 2009, Didier Bitaki, voit un lien entre ces attaques et la menace des nouvelles rébellions dans la région.
Visiblement, ce ne sont pas des ADF. Disons, c'était une petite coalition, qui sont allés attaquer la prison pour obtenir la libération des combattants qui doivent absolument faire partie de ces rébellions qui sont en gestation.
Par ailleurs, rapporte Radio Okapi, une autre tentative d'évasion a été déjouée à la prison des femmes et des enfants au centre-ville de Beni.
Le Burundi va entamer la procédure de retrait de ses troupes déployées en Somalie au sein de la MISOM à raison d'un conflit sur les salaires des soldats. Idriss Fall.
L'Union européenne ne verse plus depuis des mois les 5 millions d'euros mensuels destinés à payer les soldats burundais en Somalie. Bruxelles veut payer les casques blancs directement pour empêcher les autorités de Bujumbura d'utiliser cet argent à d'autres fins. Pour le vice-président Gaston Sindimwo, les soldats burundais engagés dans l'AMISOM sont entrés dans leur 12e mois sans être payés. Bujumbura avait déjà menacé en décembre de retirer ses troupes. Avec 5 400 soldats, le Burundi représente le deuxième contingent après l'Ouganda de la force africaine en Somalie. Les modalités de paiement de ces troupes sont prévues par un accord signé avec l'Union africaine. L'organisation panafricaine avait rejeté la décision de l'Union européenne de suspendre le paiement des salaires des soldats burundais, notant les conséquences lourdes et négatives sur les opérations de l'AMISOM.
L'ancien Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a été investi vice-président ce lundi, un poste prévu par la nouvelle constitution. Il avait démissionné le 9 janvier de ses fonctions à la tête du gouvernement, où il a été remplacé par l'ancien secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, un député a été brièvement séquestré ce mardi par des militaires ayant participé à la mutinerie de la semaine dernière à Boaké. Bemin Fofana fait partie des élus qui avaient critiqué les mutins, qui ont obtenu une promesse de paiement d'une prime de 12 millions de francs CFA.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les principaux protagonistes du conflit syrien pourraient se réunir la semaine prochaine au Kazakhstan. Les groupes rebelles ont donné leur accord pour participer à ces pourparlers militaires avec le régime sous l'égide de la Russie, l'Iran et la Turquie. En Irak, les forces gouvernementales annoncent la reprise aujourd'hui du tombeau de Jonas, l'un des plus importants sanctuaires du pays qui avait été détruit par les djihadistes en 2014. Selon un général de l'armée, environ 90% de l'est de Mossoul est désormais sous contrôle irakien.
Aux États-Unis, célébration ce lundi de la journée Martin Luther King pour rendre hommage à celui qui a payé de sa vie pour l'égalité raciale. Cette année, la commémoration se déroule dans un contexte particulier à quelques jours de l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Abdourahmane Dia.
Cette année devait être l'occasion de célébrer les progrès réalisés en matière de droits civiques et en hommage au premier président noir des États-Unis. Mais c'est plutôt une polémique qui a pris le dessus. Le futur président Donald Trump s'est attaqué samedi à John Lewis, un ancien compagnon de Martin Luther King et considéré comme une icône de la lutte pour les droits civiques. M. Trump l'a accusé de n'avoir rien fait pour sa circonscription et de ne faire que parler. Il réagissait ainsi à une déclaration de ce membre du Congrès américain qui estimait que M. Trump ne serait pas un président légitime et qu'il ne prendrait pas part à son investiture. La réponse du président élu sur Twitter n'a pas plu à plusieurs membres de la communauté noire et beaucoup de démocrates ont promis de boycotter la cérémonie d'investiture prévue vendredi. Cette polémique risque de compliquer davantage les relations entre le prochain président et une bonne partie de la communauté africaine-américaine.
Le président de la Cour suprême gambienne s'est récusé de l'examen du recours porté par le président Yahya Jammeh contre l'investiture d'Adama Barrow prévue le 19 janvier. Ce recours attendra donc que la Cour suprême soit constituée ou le temps de permettre au juge d'arriver en Gambie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la CAM avec Nicolas Pinault.
Encore une fois, Polo
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire qui piétine à OIM. Le match entre le champion en titre et les éperviers du Togo s'est soldé par un score nul et vierge, match nul 0-0. C'est le premier match sans but de cette Coupe d'Afrique des Nations, 31e du nom. L'opposition a été serrée, les éléphants ne sont pas parvenus à trouver la faille face à Adebayor et ses coéquipiers. Et puis l'autre rencontre de ce groupe, c'est dans quelques minutes à 19h temps universel, le Maroc face à la RDC. Le double champion d'Afrique en titre, Hervé Renard, qui est désormais à la tête des Lions de l'Atlas, n'aura pas la tâche facile. Il l'a reconnu hier en conférence de presse. Éclairage avec Amin Birouk à OIM pour VOA Afrique.
Ce recadrage parfaitement maîtrisé par le double champion d'Afrique 2012 et 2015 oblige ce dernier à réussir une belle performance ce lundi devant la RDC. L'adversaire qui a également beaucoup à se faire pardonner, notamment une grève des joueurs à 3 jours du démarrage de la CAN. Une CAN que les Léopards convoitent et où ils ont souvent brillé, comme le prouve leur 3e place il y a 2 ans en Guinée équatoriale. Depuis OIM au Gabon, Amin Birouk pour VOA.
En face, les Congolais, 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tenteront de faire oublier l'épisode de la grève qui a perturbé l'arrivée des Léopards à la CAN au Gabon. Une maladresse reconnue hier par le capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Moulumbu.
C'est vrai qu'il y a une vidéo qui est sortie et on va dire qu'on n'en est pas fier. Mais le tout, c'était de, peut-être de revendiquer certaines choses. Mais ça, c'est des choses hors foot, quoi. Foot. Et lorsqu'on rentre sur le terrain, chez nous, on appelle une motivation esprit. Ça veut dire qu'on a l'esprit de conquérant. Donc demain, vraiment, vous allez voir 11 joueurs sur le terrain conquérant et le public derrière nous et pour ce match-là.
Youssouf Moulumbu au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa. La 31e Coupe d'Afrique des Nations a démarré depuis samedi et déjà quelques surprises. Après le Gabon, pays organisateur, accroché par la Guinée-Bissau en ouverture, c'est au tour de l'Algérie d'avoir évité la déroute hier à Franceville. Sans un Mahrez en grande forme, auteur d'un doublé, les Fennec auraient dû s'incliner face aux Warriors zimbabwéens. Le score final, 2-2. Un score qui place les deux équipes deuxième ex aequo ce soir dans le groupe B. Le Sénégal occupe seul la première place après sa victoire convaincante 2-0 face à la Tunisie. Compte rendu de ce match sur place d'Amdinsi.
Les Lions ont souffert avant de venir à bout des Aigles de Carthage. Une équipe nationale du Sénégal très réaliste qui s'est imposée grâce à des coups de pied arrêtés. C'est Sadio Mané qui a ouvert le score sur penalty à la 9e minute. Il sera suivi par Serigne Moudou Karambo sur un corner. Le puissant défenseur sénégalais a mis sa tête pour tromper le gardien de but tunisien. Pourtant, les joueurs de Casper Zack sont mieux rentrés dans le match que ceux d'Alucissé. Les Lions de la Teranga ont eu du mal à poser le ballon et construire des actions, mais l'essentiel était de gagner et les Lions l'ont fait. En tout cas, c'est l'avis du coach Alucissé.
La finalité du football de haut niveau, ce n'est pas de dominer, c'est de gagner. Aujourd'hui, vous pouvez être d'accord, oui, la Tunisie nous a dominés par moment, je dis bien par moment, parce qu'on a eu aussi, nous, des moments quand même qui ont été très bien. Mais le résultat final, c'est que le Sénégal a gagné 2-0. Et je crois que c'est ce qui est important.
Avec cette victoire, les Lions mettent fin à cette malédiction qui l'empêchait de battre les Aigles de Carthage en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Franceville, Amédine-Sy, VOA Afrique.
À suivre demain, le retour à la Coupe d'Afrique des Nations des Pharaons d'Égypte qui seront opposés dans le groupe D au Mali à Port-Gentil. Les précisions de Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Mali-Égypte, un match qui promet de fortes émotions. Victorieux du Gabon à la CAN 2012, les Aigles maliens arrivent à cette CAN 2017 en valeur connue des Gabonais. Ils ont terminé leur préparation à Marrakech au Maroc où ils s'étaient inclinés 2-1. Face au Burkina Faso. Dans leur poule si difficile, ils comptent sur des joueurs comme l'attaquant Adama Traoré, du tout-puissant Mazembe. Les Aigles, il faut le dire, sont un peu chez eux à Port-Gentil, où l'importante communauté malienne les portera à bout de bras. Pour leur part, les pharaons égyptiens renouent avec la CAN après une absence remarquée aux 3 dernières éditions. 23 participations en phase finale et 7 sacres au palmarès, les Égyptiens ambitionnent de renouer avec leur gloire d'antan. Leur nouveau cru, un savant dosage de joueurs locaux et expatriés, s'appuiera sur le leadership de Mohamed Salah, le sociétaire de l'AS Roma. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Encore une fois, Polo Samba a
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Rendez-vous demain matin pour un nouveau journal de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique, c'est dans la Minute Éco avec Dili Diko.
Le Sénégal et la Mauritanie ont enfin trouvé un accord pour la construction du pont de Rosso qui permettra de traverser le fleuve séparant les deux pays. La BAD, Banque africaine du développement, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement vont finalement financer ce pont transfrontalier sur le fleuve Sénégal à Rosso. Le montant total du projet est estimé à 87 millions d'euros. Le FMI a publié un communiqué pour démentir l'information de Jeune Afrique selon laquelle Christine Lagarde avait suggéré l'option d'une dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale lors du sommet de la CEMAC à Yaoundé. La directrice du FMI et le conseiller Afrique de François Hollande, Thomas Mélogno, ont farouchement tenu à rectifier l'information de Jeune Afrique sur tout ce qui touche au franc CFA, à son ancrage et à sa parité avec l'euro. Le Mozambique a annoncé aujourd'hui qu'il ne sera pas en mesure de payer près de 60 millions de dollars d'intérêts d'un emprunt souverain. Le pays subit une crise économique suite au gel de l'aide internationale en raison de sa dette cachée. Pour sortir de cette situation, le Mozambique a entamé des discussions avec le FMI qui a conditionné son programme d'aide par la réalisation d'un audit indépendant dont les conclusions devraient paraître en février 2017.
Nathalie Barger, Gaby Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour avec une première escale à Bujumbura.
Le Burundi va officiellement demander le retrait de ses troupes déployées en Somalie. Les salaires de la MISOM sont financés par l'Union européenne, mais cette dernière ne les verse plus depuis des mois. Idriss Fall a joint à Bujumbura Jean-Claude Karigwan Denzako, porte-parole du président Pierre Nkurunziza.
L'Union africaine n'a pas respecté à la lettre le mémorandum d'entente qu'il a signé avec le gouvernement burundais.
C'est le paiement par l'Union européenne des soldats burundais présents en Somalie, non ?
C'est pas l'Union africaine qui paye les primes des militaires burundais déployés en Somalie. Il y a un mémorandum entre le gouvernement du Burundi et l'Union africaine. Il appartient à l'Union africaine peut-être de trouver des bailleurs pour cette opération. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est notre mémorandum d'entente entre le gouvernement du Burundi et l'Union africaine. Et ce mémorandum n'a pas été respecté par une partie qu'est l'Union africaine.
Donc vous ne traitez pas directement avec l'Union européenne ?
Non, pas du tout. Nous ne traitons pas directement avec l'Union européenne. Nous traitons purement et simplement avec l'Union africaine.
Mais Bruxelles versait les 5 millions d'euros sur les comptes du gouvernement.
S'il y a des fonds qui sont versés les comptes du gouvernement. C'est pour mettre en application le mémorandum d'entente qui existe entre l'Union africaine et le gouvernement du Burundi. C'est sur instruction de l'Union africaine que la BESIC ont reversé ces montants-là sur les comptes du gouvernement.
Bruxelles aussi voudrait être sûr que l'argent ira dans la poche des soldats burundais.
Les soldats burundais, on ne le dira jamais assez, ne sont pas des mercenaires. C'est une armée républicaine qui a des obligations vis-à-vis de son gouvernement et un gouvernement qui a aussi des obligations vis-à-vis de ses soldats. Et comme ça se fait sous d'autres cieux, les militaires doivent être payés par leur gouvernement et non pas par des particuliers.
Si jamais Bujumbura décide de retirer ses troupes de la Somalie, qui va assurer le transport de 5000 soldats burundais et leur matériel pour revenir au pays?
Ça, c'est une question à discuter entre le ministère des Affaires étrangères du Burundi et l'Union africaine. De toute façon, le mémorandum entre le gouvernement du Burundi et l'Union africaine est clair à ce sujet. Et il y a quelqu'un qui doit s'assurer du rapatriement de ses troupes, du rapatriement de leur matériel. On lira l'esprit de la lettre du mémorandum et le mémorandum sera appliqué. Il y a aussi des ramifications que je clarifierai de légal. Il y a des actions en justice qui pourraient être intentées par le gouvernement du Burundi parce que le gouvernement du Burundi se sent lésé et ça c'est clair.
Jean-Claude Karigwan Denzako, porte-parole du président burundais.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Côte d'Ivoire, les mutins ont obtenu une promesse de paiement d'une prime de 12 millions de francs CFA. Cette revendication, qui ne concerne qu'une partie de l'armée, pourrait s'étendre sur les autres corps de défense et de sécurité, et notamment les fonctionnaires de l'État. Éric Manirakiza a joint à Abidjan le directeur des publications du journal de l'économie, Eugène Cadet.
Ça a été annoncé qu'il s'agit de 12 millions de francs CFA qui vont donc être donnés à chacun des militaires en question qu'on évalue à environ 1400 personnes. Donc 12 millions qui vont être échelonnés dans le temps. Un premier paiement, en principe à partir d'aujourd'hui, de 5 millions qui devront donc être libérés. Et puis le reste est allé sur trois mois. Je précise qu'il ne s'agit pas de l'ensemble de l'armée ivoirienne, c'est concerné donc par ce deal. Il s'agit d'un certain nombre de militaires qu'on évalue à 8400.
Est-ce que le reste de l'armée n'est pas en droit de revendiquer la même chose?
C'est ce qu'on redoute parce que il serait normal que dès l'instant où un engagement est pris par rapport justement à des militaires, que ça concerne l'ensemble des forces de défense et non pas une partie des forces de défense. Donc naturellement, sur la base de quelques informations que nous entendons ici et là, cet exemple où ce paiement risque de faire partie autour des autres corps de métier de l'armée, la gendarmerie, la police principalement. Donc il est à redouter qu'il y ait un effet boule de neige quant à cette revendication.
Il y a aussi des fonctionnaires de l'État.
Mais on a bien vu que le mouvement s'est étendu au secteur privé, ne serait-ce que par l'empêchement des cours dans les établissements privés, puisque les élèves, les lycéens ont été empêchés ce matin de pouvoir suivre les cours. Donc, naturellement, on se retrouve dans une situation de multiples revendications, parce que les fonctionnaires, c'est non seulement les enseignants, mais c'est aussi les médecins, divers corps de métiers qui sont importants pour l'équilibre à la fois social mais économique de ce pays. Donc, c'est difficile de dire s'il y a des incohérences politiques ou pas, mais toujours est-il que c'est la bonne organisation qu'on a pu observer aussi concerne donc et la synchronisation des mouvements qu'on a pu observer autour des revendications militaires, pour ne parler que d'eux, laisse naturellement croire que ce n'est pas un mouvement spontané et qu'il y a forcément ou il devait y avoir une forme d'organisation derrière qui rend justement efficace ce mouvement de revendication qu'on a pu voir sur l'ensemble du territoire national.
Notre confrère Eugène Cadet était joint à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, pour soutenir les jeunes entrepreneurs du pays, le gouvernement donne l'opportunité à ceux qui s'illustrent dans la production locale de communiquer gratuitement sur les médias publics. Notre correspondante Kayi Lawson nous en dit plus.
Dans un souci d'apporter un appui médiatique à la promotion des jeunes entrepreneurs bénéficiaires des dispositifs et mécanismes d'accompagnement mis en place par le gouvernement togolais, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la Communication et celui de l'Emploi des Jeunes. Guy Madié Lorenzo, ministre togolais de la Communication, s'adressant aux jeunes entrepreneurs.
Vous êtes jeune, vous ne faites pas encore beaucoup de chiffre d'affaires. Or, si vous voulez vous développer, vous devez vendre. Vous ne pouvez pas commercialiser. Si vous ne faites pas du marketing, il faut faire de la publicité. Mais comment pouvez-vous allier à la fois les coûts de production à ceux du marketing, de la publicité? Parfois, ça peut représenter jusqu'à 20% du budget, ce que vous n'avez pas forcément.
Cette initiative, comme on pouvait s'y attendre, réjouit les jeunes entrepreneurs.
Permettre à nous, jeunes entrepreneurs togolais, une promotion sur les chaînes nationales. Et ça va nous donner maintenant une opportunité de faire valoir nos produits à travers les chaînes.
Nous pensons que cette convention va booster nos ventes
Et puis nos produits seront beaucoup plus visibles maintenant qu'avant.
Cette facilité de communication gratuite sur les médias publics n'est concédée qu'aux startups qui ont déjà bénéficié des mécanismes d'accompagnement du gouvernement. Pour Irène Assiongbon, directrice de Perloria, une TPE spécialisée dans des bijoux en perles, la réflexion doit se poursuivre pour inclure les startups non bénéficiaires de ces mécanismes.
C'est une excellente chose, mais on regrette un petit peu de ne pas être éligible ou en tout cas de ne pas pouvoir bénéficier de quelque chose de similaire lié à notre statut d'entrepreneur, puisque en dehors du fait que nous ne soyons pas allés vers les structures gouvernementales pour nous aider, nous soutenons aussi l'économie de notre pays.
Les jeunes entrepreneurs togolais ont saisi cette occasion pour égrener une pile de doléances au nombre desquelles des exonérations fiscales. Ismaël Tanko, directeur de Team Agro et porte-parole des jeunes à la signature de cette convention.
Les jeunes entrepreneurs proposent une exonération de tout droit de douane sur l'importation de tout matériel en rapport avec l'agriculture et la transformation agroalimentaire. Ce que les jeunes entrepreneurs togolais souhaitent, c'est une exonération totale des impôts pendant leurs 3 premières années d'existence, puis un retour progressif au vrai taux.
Selon les responsables des startups au Togo, le packaging, l'accès aux sources de financement et la communication sont les 3 premiers facteurs qui freinent la croissance de leurs entreprises. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
En Guinée, les viols commis contre les femmes et les filles semblent prendre une proportion inquiétante. Plusieurs ONG locales haussent le ton et demandent plus de justice. Certaines de ces organisations pointent l'impunité comme facteur aggravant de ce phénomène criminel. Un reportage de Zakaria Camara à Conakry.
Castrer tout homme qui se rendrait coupable des viols, une proposition d'une députée guinéenne il y a quelque temps, mais une réaction qui en dit long sur l'abus dont sont victimes les femmes de la part des hommes en Guinée. Le phénomène prend de l'ampleur et occupe les colonnes des faits divers de journaux. Pour se faire une idée, il faut approcher les ONG.
Le constat est alarmant. Il y a plus en plus de viols en Guinée, et surtout au niveau des enfants.
Binta Anne est présidente de la fondation du même nom pour les femmes et les enfants.
C'est des cas vraiment très tristes parce qu'on a vu des petites filles de moins de 10 ans qui ont été violées par des personnes qui ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Et souvent, c'est des personnes dans la famille ou dans le voisinage.
Certains violeurs bénéficient d'une protection à cause de leur lien avec leurs victimes. Moussa Yoruba, président de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée.
Les pesanteurs socioculturels aidants, quand ça se passe dans une famille, on a plus tendance à couvrir la personne. Surtout quand c'est entre cousins et cousines, on ne veut pas éclabousser la famille. On préfère garder le criminel, le couvrir, même s'il risque de violer d'autres. Fillette, on préfère le couvrir.
Journaliste, activiste, Moussa Yoro est l'organisatrice d'une marche contre une vidéo montrant un artiste chanteur guinéen en train de menacer au couteau une jeune fille nue. Dans son carnet, des cas de viol qui n'épargnent aucun âge.
On a vu un cas à Pita, quand vous en parlez, ça sort de l'ordinaire. Les gens se sont demandé si c'est un cas de sacrifice, un bébé de 9 mois qu'on a tenté de violer. Heureusement, le criminel n'est pas parvenu. Il y a 4 cas récemment du côté de Koya. Les 2 fillettes de 9 ans qui ont été enlevées à Bolbini et violées à Koya, elles avaient 9 ans. Il y a 2 fillettes, l'une de 6 ans, l'une de 4 ans. Celle de 4 ans a été violée par un adulte de 46 ans, vous vous imaginez? La fille a passé plus de 3 mois à l'hôpital Ignace Dine pour être réparée.
Le viol est condamné en Guinée et l'auteur passible de peine de prison d'au moins 5 ans selon la gravité des faits. Mais pour les défenseurs des droits des femmes, des efforts restent à faire sur le plan juridique.
Si le crime devient recrudescent, c'est parce qu'il y a l'impunité. Si nous n'intervenons pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des négociations qui se font à l'amiable. Quelquefois, les gens payent de l'argent au niveau des commissariats ou des gendarmeries pour qu'on libère les personnes. C'est ce qui explique que le phénomène se répète souvent.
Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma, qui en a assuré la mise en onde avec l'assistance des Audrey Regis à la console, présentation Nathalie Barge et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et pour l'actualité en continu, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. Très bonne soirée.